musique avec Serge Lacasse et Gérald Côté. Parlons musique.
Cher Gérald, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va bien et très content de te retrouver en cette 12e émission de la première saison de Parlons musique. Un épisode qui va parler, je pense, qui va toucher le sujet très vaste de la musique pour le film, musique de trame, documentaire, musique, bon, en fait, des choses que j'ai déjà fait toi aussi, je pense.
Oui, oui, mais je suis surtout, je dirais, un amateur de films, puis de lien avec la musique, fait que ça, c'est sûr, mais oui, je fais un peu de musique en lien avec, avec du cinéma ou des émissions, mais c'est plus ce qu'on appelle en anglais le music licensing, c'est-à-dire de la musique de synchro, mais c'est plutôt de la musique qui est déjà existante. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure un peu des distinctions, des sortes de musique.
Mm-hmm.
Mais moi, j'ai un truc que j'aimerais dire d'entrée de jeu, un souvenir que j'ai d'un cours que j'avais suivi avec maintenant mon ex-directeur de thèse de doctorat, Philippe Tagg, dont on parle parfois ici. Et Philippe donne un cours qui s'appelle Music and for the Moving Image, ou quelque chose comme ça. Donc, musique pour l'image en mouvement. D'ailleurs, il appelait même ce cours-là comme ça en français, parce qu'il a enseigné quelques années à l'Université de Montréal, puis il appelait ça musique pour l'image en mouvement, parce qu'il voulait avoir quelque chose le plus général possible. Mais il donnait toujours l'exemple suivant au début de son cours, puis je trouve que c'est vraiment intéressant comme exemple. C'est-à-dire qu'il montrait le début d'une émission qui était tout à fait inconnue, surtout au Canada, parce que c'était une émission des années 70 à peu près, en Angleterre, pas très populaire. Puis l'émission commençait, que c'était en vol d'oiseau, puis on voyait une voiture qui faisait une route un peu en campagne pour arriver finalement à une maison. Et là, il montrait cette même séquence-là visuelle, mais avec 4 puis 5 différentes sortes de musique. Alors, la première, c'était, par exemple, une musique, je ne sais pas moi, champêtre, tu sais, un peu pastorale. Puis là, on voyait ça, puis ah, ben c'était beau. On sentait qu'on était dans, tu sais, qu'on était à la campagne. Ça a été une belle, jolie histoire douce. Une autre, après, évidemment, c'était une musique d'horreur, genre. Puis donc, là, on s'est dit, OK, là, il va se passer quelque chose de grave. Puis donc, ça changeait complètement, même si l'image était toujours la même.
Un groupe d'oiseaux qui suit la voiture.
Mais donc, c'est intéressant comme manière de montrer à quel point la musique peut changer totalement notre rapport affectif, émotif avec l'image. Puis je pense que c'est ça en gros le rôle que va jouer la musique au cinéma ou à la télé ou tout ça, c'est de guider en fait un peu le spectateur dans une zone émotive. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses.
Tout à fait. On peut faire un exercice très simple à la maison, c'est-à-dire que on peut écouter un film puis de mettre une sourdine, mettre le son en sourdine et de remettre le son de temps en temps dans une même séquence et de voir à quel point cette séquence-là sur le plan de l'émotion intérieure, ça veut dire autre chose. Puis effectivement, les jeux de contraste sont très, très forts, sont utilisés souvent en ce sens. Par exemple, l'exemple que tu donnes, petit tour à la campagne avec une musique un peu pastorale, comparativement à une musique un peu plus stridente, eh bien, s'il y a une musique stridente, on s'attend à quelque chose. On est un peu pris dans notre chaise, puis on s'attend à quelque chose de négatif, que ce soit, comme j'ai mentionné, en référence à Hitchcock, un groupe d'oiseaux qui suit la voiture ou whatever, qu'on voit pas, mais qu'on sent. On n'a pas obligé de le voir pour le ressentir, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, effectivement, dans tout ce qui est musique à l'image, image en mouvement, c'est un personnage plus important qu'on peut se l'imaginer, là, qui est celui de la musique.
Oui. D'ailleurs, même si on, en plus, si on généralise un peu avec le son en général, donc la musique, mais aussi bon les dialogues puis les effets sonores, le théoricien du son au cinéma qui s'appelle Rick Altman disait que en fait, le son est dans la vaste majorité des cas, le son est plus important pour comprendre l'histoire que l'image.
Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Oui.
Donc, autrement dit, si tu fermes, mettons qu'on ferme tous les canaux sonores puis qu'on regarde un film, ben peut-être qu'on ne comprendra pas vraiment ce qu'il y en est. On va peut-être comprendre des bouts, mais pas tout. Mais ça dépend évidemment des types de films, là, on s'entend, mais en général. Alors que si tu fermes l'image, mais que tu as seulement le son, tu risques de comprendre beaucoup plus de quoi il s'agit, entre autres parce qu'évidemment, tu entends les dialogues. Maintenant, si on ferme, je suis en train de développer ton idée de sourdine. Si on met en sourdine seulement la bande sonore, mais qu'on continue d'entendre les dialogues et les effets sonores, là, ça vient un petit peu, c'est pas juste plate, c'est comme on perd l'effet d'un film. D'ailleurs, sur YouTube, j'invite peut-être qu'on va remettre un lien là, à des exemples, mais il y a des gens qui ont fait ça sur YouTube, donc qui ont pris, par exemple, des scènes de films desquels la musique a été supprimée. Et on fait juste entendre les dialogues, puis les bruits, puis je veux dire, ça a plus de portée, ça n'a plus de... Il n'y a plus justement d'émotion. C'est comme si l'émotion était retirée de l'écran, était retirée du film. Donc, c'est une très grosse partie. Et pourtant...
Oui, puis on s'en sert, même les réalisateurs s'en servent, ces moments de silence un peu vide, pour vouloir justement dire quelque chose. Là.
Oui, exact. Mais j'allais dire...
Mais si ça dure trop longtemps, le message, il tombe. Exact. Il ne faut pas que ça soit.
Voilà. Mais j'allais dire que, très paradoxalement, le budget d'un film ou d'une émission allouée à la musique oscille à peu près entre 1 à 5%, 10% dans les cas des gens qui ont vraiment un grand, grand respect pour la musique, là, puis qui vont engager, par exemple, Hans Zimmer, puis des cas comme ça, mais c'est toujours un budget minime qui est alloué à ça. Bon, évidemment, c'est peut-être un peu plus complexe pour faire l'image dans ce sens que tu as besoin d'une équipe plus grande, tu as besoin d'équipement.
Ce qui coûte cher, c'est le salaire des comédiens, évidemment.
Oui, exact. Le salaire des comédiens, le coût, mais l'équipe. Après ça, bon, ils louent, évidemment, là, ils louent de l'équipement pour tourner, mais ça coûte quand même cher. Ensuite, tu as le montage après et tout, mais le son quand même, c'est faire la musique, ça coûte cher aussi. Je veux dire, tu engages un orchestre, par exemple. C'est un gros budget. Bon, maintenant, on peut faire ça à l'ordinateur et tout, mais même là, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Donc, c'est méconnu, à mon avis. C'est ça, le problème. C'est que c'est méconnu du public parce que...
Et sous-estimé.
Parce que c'est beaucoup moins concret d'une certaine manière. Puis, on est dans une société qui valorise beaucoup le visuel au détriment du sonore. Donc, c'est sûr que ça a cet impact-là. Mais j'invite les auditeurs à n'importe quel film ou émission qu'ils vont écouter de porter attention à la musique pour essayer de déterminer son rôle, le rôle émotif que la musique va jouer.
Effectivement. C'est vraiment le personnage invisible, mais si on l'enlève, on perd beaucoup du message que le réalisateur venu nous faire part.
Oui. D'ailleurs, ça m'amène à... Bon, tantôt, je parlais de distinction. Tu sais, on aime ça commencer notre truc avec des définitions et des distinctions, mais il y a quand même... des choses générales là, par rapport à la musique de film. Premièrement, il y a trois ou quatre sortes, je dirais, de musique de film. La première qu'on connaît bien, c'est on engage un compositeur comme John Williams, Hans Zimmer, ou avant Korngold, peu importe, qui va composer la musique et probablement aussi l'orchestrer, mais souvent, ils ont des équipes, tu vois, comme Hans Zimmer, John Williams aussi, j'imagine, John Potter, ils ont des équipes quand même, mais donc ces gens-là sont responsables de composer le thème principal, souvent aussi ce qu'on appelle à la suite de Wagner les leitmotivs ou les mélodies qui vont être associées aux personnages principaux, souvent dans des émissions, dans des films, bon, ça dépend de quelle sorte de film, mais en tout cas traditionnellement c'est ça. Donc ils construisent ça, Puis ensuite, bon, ils font cette bande de films-là, cette bande sonore, pardon, là, musicale, qui va être la principale, si on veut, pour accompagner l'action, pour accompagner la réflexion, les personnages qui... Mm-hmm. Bon. Ensuite, il y a un autre type de musique qui est... en fait, je vais séparer ça en deux, mais la musique de licence. Donc ça, c'est... il y en a deux sortes, en fait. Là. Il y a une musique de licence qui est de la musique existante, par exemple, ou qu'on va commander, mais très rapidement, à des gens pour un certain montant. Donc, il y a un budget, par exemple, d'alloué pour 5 000 $ pour une pièce qui va être dans ce genre-là précis, parce que ça va arriver d'un certain moment pendant le film. Ça peut être même aussi des fois qu'ils cherchent une pièce en français des années 80 parce que l'action du film se déroule dans les années 80 en France. Puis là, ils vont rentrer dans une discothèque, par exemple. Puis là, il va y avoir de la musique qui va jouer. Puis plutôt que de payer Rihanna ou payer, bon, dans les années 80, c'était plus Depeche Mode, pour faire jouer ça, parce que ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, ils demandent ce qu'on appelle des sound-alike ou du matériel original, mais qui va être, dont le producteur va détenir tous les droits, puis donc il a le droit de dire, OK, tu me donnes 5 000 $, vous autres pouvez utiliser la pièce. Donc, il y a cette sorte-là.
Et puis, d'un point de vue pratique, parce que je l'ai vécu lorsque j'ai eu à travailler sur une exposition là, au Musée de la Civilisation, une exposition avec laquelle, d'ailleurs, tu avais collaboré aussi, je me souviens, on cherchait, bon, évidemment, on fallait créer des ambiances sonores, on fallait tout faire. Et puis, lorsqu'on est arrivé, bon, sur le plan historique, on voulait parler, faire allusion à Presley, à Elvis Presley. Et je peux dire que son producteur de l'époque, en tout cas ceux qui ont hérité de la gestion du patrimoine Elvis Presley, était vraiment très, très gourmand, demandait pour à peine quelques secondes, on frisait les 6 chiffres pour utiliser un tout court passage. Donc, finalement, on s'est rabattu à autre chose. Ouais. Et d'autres, je me rappelle, c'est Carlos Santana qui, lui, ne demandait rien.
Ah oui, c'est ça.
Lui avait les droits. Et puis aussi Youssou N'Dour était d'une gentillesse incroyable. Donc, tout ça est négociable à la pièce avec ceux qui possèdent, on peut dire, les droits liés au patrimoine, etc.
Qui rend ça plus compliqué, là, c'est qu'il y a deux types de droits. Il y a les droits d'auteur sur la chanson, sur la pièce musicale. Donc, si par exemple, dans Riff, on avait décidé de rejouer une pièce d'Elvis, ben là, on aurait dû payer des droits, mais seulement pour la composition. Puis là, peut-être, ça aurait été à peu près la moitié, là. Du chiffre.
Il y a les droits d'enregistrement, vois venir.
C'est ça. Il y a les droits liés à l'enregistrement qui sont un autre droit. Ça fait que, donc, il faut gérer, ça c'est compliqué à gérer. C'est pour ça qu'ils font appel plutôt à des gens qui vont, surtout quand c'est pas de primordial. Évidemment, parfois, ils veulent des hits parce que ça va aider au film. Puis là, puis surtout s'ils ont du budget, là, ils vont mettre un 100 000, un 50, un 100 000, un 200 000 pour aller chercher un gros hit qui va pouvoir accompagner le film. Donc ça, c'est ça. Mais ensuite, la troisième sorte, c'est ce qu'on appelle dans le langage populaire la musique en canne, c'est-à-dire des librairies sonores qui ont plein de petits bouts de musique de toutes les sortes et qui coûtent vraiment pas cher en général. Puis les gens qui... Il y a des compositeurs qui font ça. J'en ai, moi aussi, dans plusieurs librairies.
J'en ai vendu à un moment donné. Il y avait un groupe au Québec là, qui s'occupait de ça. Je ne me rappelle plus de leur nom.
Oui, il y en a plusieurs. Bon, au Québec, il y en a moins quand même. Là, mais, puis en tout cas, là encore, là, il y a toutes sortes de distinctions par rapport à est-ce qu'ils veulent l'exclusivité totale ou pas l'exclusivité. Donc, quand ils veulent l'exclusivité, ça coûte plus cher. Ça peut être pour un certain temps. Bon, tout ça. Mais ça, c'est un autre type de truc. Ils vont là, ils s'inscrivent. Il y en a des banques où les producteurs peuvent s'inscrire à l'année puis utiliser le nombre de pièces qu'ils veulent. D'autres fois, il faut qu'ils payent à la pièce et tout. Mais ce type de musique-là est très utile quand c'est vraiment une musique de fond, par exemple, un truc qui joue pas fort à la radio derrière puis qu'on entend à peu près pas pendant qu'ils font des trucs, pendant qu'ils sont en cuisine puis qu'ils sont en train de se battre, admettons, puis qu'il y a une musique qui joue. Bon, des trucs comme ça qui... Donc ça, c'est les 3 ou 4 sortes de musique de film. Puis c'est important parce que c'est avec l'histoire de la musique, là, ce qui nous intéresse souvent, c'est qu'il y a eu des étapes par rapport à ça. Tu sais, par exemple, il a fallu attendre un bon bout de temps avant qu'on entende vraiment des chansons dans des films. Tu sais, avec Blackboard Jungle, on avait parlé la dernière fois. C'est ça, d'ailleurs, qui nous avait amené un peu sur le terrain de la musique de film, puis nous donne l'idée d'en parler.
Billy Alien and the Comets.
Mais tu as remarqué, c'était pas Little Richard ou c'était pas du R&B qu'on a pris. C'était une pièce d'un groupe blanc, Billy Alien and the Comets, et dont la musique avait été écrite par des membres de l'ASCAP, c'est-à-dire l'Association des auteurs-compositeurs liés à la Tin Pan Alley et donc liés à Hollywood. Donc, c'était vraiment la bande d'Hollywood qui avait comme fabriqué une pièce dans le genre de du rock'n'roll.
R&B, c'est un plagiat parce que le mot rock'n'roll, lui, est une diversion, si on peut dire, pour amener les auditeurs sur un autre terrain que celui du Rhythm and Blues qui faisait toujours scandale à l'époque. Un blanc jouait là.
Exact. Mais finalement, avec le temps, ben là, de plus en plus, les réalisateurs se sont rendus compte que c'était intéressant d'avoir de la musique existante, connue du public dans des films. Un exemple au Québec qui est vraiment intéressant pour ça, je ne sais pas si tu l'as vu, Gérald, c'est le film Crazy.
Oui, j'ai vu, oui.
Puis tu vois, je pense que c'est pas Falardeau, c'est qui a fait le film? Jean-Marc Vallée. Puis il demandait des droits faramineux parce que lui, il voulait absolument Pink Floyd. Il voulait David Bowie parce que on est dans les années 80. C'est un personnage qui est en train de découvrir son identité. Puis donc, la musique joue un rôle crucial là-dedans. Puis il a réussi à avoir les droits, mais pour certaines régions du monde. Puis en tout cas, c'est compliqué.
C'est compliqué. Mais si tu me permets, je vais ajouter aussi, parce que j'ai expérimenté ça à plusieurs reprises, une autre catégorie, tu n'as pas fait mention par rapport à la musique de film. Moi, je l'appellerais la musique, je dirais, sur mesure. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de, par exemple, en communication avec un réalisateur, de faire ce qu'on appelle des pitchs dans l'argon, dans le jargon, là. Et je pouvais prendre un même thème et de lui mettre plusieurs couleurs. Et là, le réalisateur qui, je veux pas, comment je pourrais dire, être prétentieux ou quelque chose du genre, là, mais souvent les réalisateurs ou plusieurs réalisateurs n'ont pas nécessairement une formation musicale comme nous. On est quand même un spécialiste dans notre domaine et pouvait souvent même se mélanger, par exemple, entre une ambiance romantique, une ambiance classique, une ambiance baroque. Et donc, tout ça, ça pouvait parfois apporter de la confusion. Même j'ai eu, avec un réalisateur, confusion entre blues et funk. Parce que il semblait que pour lui, c'était un petit peu semblable. Bon, et puis ça peut se comprendre, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. C'est tout à fait naturel. Donc, à ce moment-là, on fait des pitchs avec plusieurs couleurs. Et là, le réalisateur, à force d'en faire comme ça, des fois, tu es obligé de le faire à quelques reprises, finit par dire « oui, c'est ça que je veux ». Là, tu comprends. Et puis, une fois que tu as compris ça, là, à partir du thème ou de l'idée principale, là, tu fais des variations. Qui ces variations-là vont servir à son métrage dans différents passages, mais c'est toujours le même thème avec une ambiance de base. Donc, on a déjà trouvé le personnage principal, si on peut dire, sur le plan sonore. Et après ça, on peut le déguiser, lui mettre une moustache, lui mettre des lunettes, si vous me permettez l'image, au fur et à mesure là que le projet avance. Et donc, au fur et à mesure que le projet avance, il peut y avoir des choses qui changent, qui se modifient. C'est en ce sens-là que j'appelle ça, la création sur mesure en temps réel avec un réalisateur. Ça m'est arrivé à quelques reprises.
Ça ressemble un peu, dans le fond, au compositeur, mais c'est au premier cas, mais un sous-cas de ça où le compositeur doit presque éduquer à mesure le réalisateur dans certains cas. Là. Puis c'est normal. C'est normal. Là. C'est pas leur...
C'est tout exactement. Ouais. En image, on y connaît beaucoup moins. Et bon, c'est là qu'on travaille en équipe pour essayer de rejoindre. Et puis l'effort du musicien, donc ça, c'est une des mes expériences, là, de réflexion d'expérience là-dessus, c'est qu'il faut que tu finisses par entrer dans la tête du réalisateur.
Oui, pour le comprendre.
C'est presque un travail d'ethnologue, hein, à force de parler avec et tout ça. Donc, et bon, ça, c'est un cas. C'est un cas. Il y a d'autres types de cas, évidemment. Hein. On parle de John Williams, on parle d'une manière beaucoup plus standardisée, si on peut dire, d'utiliser la musique de film avec, bon, les montées dramatiques un peu classiques, avec le thème en majeur lorsqu'Indiana Jones va sauver sa princesse, whatever. Il y a des gros standards qui existent, mais dans le documentaire, c'est peut-être un petit peu moins évident. Et aussi dans des films, je dirais, un peu plus hors normes, on va dire ça comme ça.
Des films d'auteur, genre. Mais en fait, les films aussi qui ont moins de budget, ça arrive aussi, tu sais.
Exactement.
Mais tu vois, il existe un métier qui est peu connu ici au Québec, même au Canada, mais surtout au Québec, qui est le superviseur musical. Donc, si on regarde, par exemple, les crédits, là, le générique à la fin d'un film, il va avoir toujours, en tout cas très souvent, la mention « music supervisor » ou « superviseur musical ». Mm-hmm. Et c'est cette personne-là qui, bon, lui, il n'interagit pas directement avec le compositeur. Tu vois, c'est plus avec le réalisateur et le monteur directement qu'il y a ce rapport-là. Mais toutes les autres sortes de musique, puis parfois, ce que tu décris, il peut y avoir des sous-ensembles comme ça dans un gros film. Là, c'est avec le superviseur musical qu'on va interagir. Puis je te donne un exemple que moi, j'ai vécu récemment avec Hollywood. Puis c'était intéressant parce que je ne l'ai pas eu, mais j'ai appris vraiment comment ça se passait. En fait, c'était pour un film de... c'est un Canadien, God... Et je ne me souviens plus de son nom, je vais le retrouver tout à l'heure. Ah oui, Atom et Goyan.
Ah, Atom et Goyan, c'est drôle, oui. C'est le premier qui me vient à l'esprit.
OK. Et donc, le film parle, en fait, met à l'écran une compositrice, justement, de musique, puis d'autres personnages. Puis là, pendant une scène, donc, écoute, la séquence est tournée déjà. OK, donc la séquence est tournée, mais elle n'est pas finie. Tu sais, donc, tu vois, là, quand tu nous montres la séquence, c'est avec le SMPTE, c'est-à-dire le code de la...
Le time code, on appelle.
Oui, le temps temporel en dessous. Et moi je ne l'ai pas vu, ça. Je n'ai pas vu ça. Et on m'a demandé un bout de musique de piano. Parce que dans la scène, la compositrice est en train de travailler sur une pièce, elle est en train de composer, puis elle est dans une chambre d'hôtel, mais elle est avec son ordi, puis donc elle écoute cette musique-là. Puis là, quelqu'un va cogner à la porte. Alors, imagine-toi que pour ça, le superviseur musical a dû contacter, je ne sais pas moi, une 10, 15 compositeurs, ou en tout cas, personnes qui avaient de la musique. Et de ça, il a gardé trois trames qui auraient pu fitter pour ça, dont la mienne. OK? En fait, c'était une qui était la mienne, une autre d'un ami que je connaissais, mais que j'avais aussi les droits, on s'est entendu avec lui, puis une troisième personne. Alors, le superviseur musical, qui est décédé malheureusement, c'est épouvantable, mais en tout cas, je ne veux pas le nommer parce que, en tout cas, bref. Alors, le superviseur musical me contacte, mais il dit, bon, ta pièce est dans les trois pièces qui sont en finale, si on veut, pour le choix. Et donc, rendu là, ils vont travailler, ils s'en vont, le superviseur musical s'en va en général ou parfois avec un autre acteur, mais disons qu'on ne compliquera pas trop la chose. Ils vont à la salle de montage parce qu'on est rendu au montage du film. Et c'est là qu'ils vont décider, avec le monteur, avec le réalisateur parfois, quel petit bout qui dure à peu près 20 secondes puis qu'on n'entend à peu près pas va être choisi. Donc, ils font ça, ils écoutent le « Ah oui, j'ai oublié, ils nous font signer un contrat avant aussi. » Donc, c'est un pré-contrat que si jamais ils acceptent, bien, c'est déjà négocié puis ils vont tout de suite pouvoir le mettre dans le film. Puis qu'on sait que tout est correct sur le plan légal. Tu vois? Donc, moi, c'est pour ça que je suis au courant que ma pièce est là parce qu'il faut que je signe ce pré-contrat-là, si on veut.
D'accord. C'est super intéressant.
Ben oui. Puis là, ensuite...
Ça ressemble un peu à ce que j'ai dit d'une certaine façon.
Ça. Sauf qu'on n'amène pas de changement. T'sais, eux, ils prennent le bout puis ils l'insèrent. Ah, mais ça ressemble à ce que tu dis. Puis finalement, je ne l'ai pas eu, mais le superviseur musical m'a envoyé en fait ce qu'il avait préparé au montage. Et donc, on voyait la séquence avec avec les dialogues et tout. La musique de un, la musique de l'autre, puis la musique du troisième. Évidemment, ils ont choisi le troisième. Ni mon ami, ni moi l'avons eu, mais c'était intéressant d'entendre les trois. Puis on pouvait comprendre Mais c'est des petites nuances comme ça. Puis ça, c'est pour une scène qui dure 20 secondes dans un film.
C'est comme ça. Ben oui, effectivement.
Puis donc, imagine-toi tout le temps qui est mis, tous les gens qui travaillent pour rien, en fait. Nous, on a travaillé pour pitcher, justement, comme tu dis.
Ouais.
Donc, il y a plein de monde comme ça pour tout le film. Imaginez-vous la quantité, alors qu'il n'y a personne qui pitch, entre guillemets, pour le visuel.
Ouais.
Donc, il y a comme une économie sous-jacente de ça, qui est une économie de l'espoir, je dirais, pour réussir à ce que peut-être notre petit bout va être mis dans le film. Tu sais, en tout cas, bref,
c'est... Surtout Hollywood, qui sont quand même extrêmement puissants. Hein. Moi, mon expérience se résume pas mal plus à du documentaire fait avec des professionnels quand même au Québec. Là, que ça passait à Radio-Canada, ça passait aux chaînes publiques, tout ça, mais c'est beaucoup plus simple. Mais en même temps, à partir du moment où tu as un accord fait avec le réalisateur, tu n'as pas fini de...
Non.
Pitcher, en guillemets, t'as pas fini, tu continues, parce que, bon, et ça dépend du réalisateur aussi, chaque réalisateur a sa façon de penser, sa façon de travailler, et c'est là que moi, je reviens avec cette phrase, cette idée-là, il faut entrer dans la tête du réalisateur, trouver tous les trucs possibles pour le faire, et là, on finit par travailler en équipe, et parfois le réalisateur peut changer d'idée aussi, hein, c'est ça, quand on est dans la fine couture, puis qu'on travaille au quotidien avec, on avance là, au fur et à mesure que le tournage se fait, d'une certaine façon, ben ça...
Mais
il n'y a pas juste une manière, hein, il y a plusieurs façons, autant qu'il y a de réalisateurs et autant qu'il y a de façons, étant donné que de toute façon, ils n'ont pas tous la même formation musicale. Et puis, il y en a qui cherchent, il y en a qui savent ce qu'ils veulent, et puis c'est normal.
Ah oui, exactement. Je ne me souviens plus de son nom, mais j'ai vu un documentaire sur le réalisateur du film L'Exorciste. Puis, il expliquait justement, il y a un bon bout qui parle de la musique. C'est vraiment extraordinaire, ce bout-là.
Il étudie Mike O'Fee là-dedans.
Exactement, ça, exactement. Puis, il raconte comment il est arrivé à faire ça. Puis, ça a été complètement par hasard. Tu sais, je veux dire, c'est une belle histoire. Là. Vous pouvez le voir, je pense, c'est sur Netflix ou en tout cas un truc comme ça.
Mm-hmm.
Où vous pouvez regarder cette émission-là. Puis, il parle beaucoup de musique dans ça. C'est intéressant. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, justement, ce qu'il faut comprendre quand on est producteur, compositeur de films, c'est que puis c'est difficile parfois, là, c'est qu'il faut être tout sauf égo. Parce que
c'est
l'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on sert, c'est même pas qui, c'est qu'est-ce que l'on sert, c'est le film. Alors, c'est pour ça que quand j'ai vu les trois extraits, dans mon cas, j'ai dit, OK, je comprends pourquoi, dans les circonstances, dans le contexte, l'éthos du film, puis tout ce qui se passe, puis la scène, pendant que la scène... Qu'est-ce qui était le plus approprié pour ça? C'était cette pièce-là. Ça n'a aucun rapport avec la meilleure ou pas la meilleure. Ça a rapport avec qu'est-ce qui sert le discours du film.
Hey, mais ça me rappelle un bon vieux souvenir entre nous deux.
Oui.
Je me rappelle que tu m'avais invité dans ta classe pour parler de musique, de trame pour musique en mouvement, image en mouvement. Et... Il me semble que c'était avec toi, il me semble que c'était dans ta classe. La première chose que j'ai fait, j'ai écrit le mot « ego » au tableau, puis j'ai mis un « X » dessus.
Ah oui, oui, c'était un film justement qui... C'était pas un film, mais on l'a pas filmé. Mais c'était mon cours sur... Je me souviens plus c'était quoi, le cours, dans le fond.
Ouais, tu te rappelles de cette...
Oui,
certain. C'est la première chose que j'ai fait, que tu puisses arriver à ça encore avec tes réflexions là, par rapport à ton expérience personnelle par après. Ben, ça demeure plus que pertinent, effectivement. C'est pas la place pour l'ego, c'est la place pour l'écoute. Et l'humilité.
L'humilité, puis l'écoute, puis l'audiovision, en fait. C'est-à-dire cette idée-là que c'est une combinaison du son puis de l'audio, de l'image et de l'audio, puis que ce qui en ressort, c'est quelque chose de différent que seulement la musique puis seulement l'image. Puis que donc, c'est très particulier, en fait, quand on a ce lien-là avec un film ou avec une émission, peu importe ce qui est tourné, puis même avec la vie en général, on en a déjà parlé, mais si on se balade avec des écouteurs, avec un casque d'écoute, puis avec de la musique, ben ça va teinter très fortement notre expérience. Donc, il y a cette interaction-là entre les deux est vraiment, vraiment, vraiment cruciale. Puis c'est ça l'idée de quand on est du point de vue de la création, hein. c'est cette chose-là, c'est cette relation-là qu'on veut servir, qu'on veut alimenter.
Je sais pas, mais il y a un autre aspect, je sais pas si je dévie trop là, de ce que tu t'en allais dire au moment où je parle, parce que ça, je t'ai coupé, je suis désolé. Il y a un aspect qui m'a toujours fasciné, c'est l'espace sémantique de la musique. C'est-à-dire que si on parle par exemple d'une gamme mineure, d'une gamme majeure qu'on utilise de façon quand même très conventionnelle en général dans le cinéma, ces couleurs-là qui sont harmoniques ou mélodiques là, dans le sens technique, dans le sens théorique de la musique, ces couleurs-là, c'est quand même appris pour moi. Et ça varie d'une culture à l'autre de par mais ce que j'ai pu avoir comme expérience à l'extérieur du Canada. Ça me fascine. L'espace sémantique d'une musique.
Oui.
L'espace sonore qui nous parle, mais au niveau de ses composantes, je dirais techniques.
Mais ça, c'est fascinant parce que, bon, OK, un peu d'histoire de la musique au cinéma. Bizarre, très paradoxalement, quand il n'y avait pas de son dans la bande du film, on disait que c'était du cinéma muet. Sauf que c'était tout sauf muet.
C'était plein de ragtime. C'est l'époque du ragtime. Le ragtime ponctuait toute la musique de film.
Ben, il y avait ragtime, mais il y avait même des orchestres. À l'Impérial à Montréal, par exemple, il y avait un orchestre. Il y avait parfois même aussi des instruments qui avaient été faits vraiment pour la musique de film, et donc, mais qu'on jouait en direct pendant que les gens regardaient. Donc, il y avait un spectacle en même temps.
Ah oui, c'est ça.
Tu vois?
En ce sens-là, c'est la musique piano ragtime, au tout début, oui. Là, on parle. Exact. On est vraiment dans le balbutiement du cinéma. Là.
Oui, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des formules qui correspondait à des ambiances ou des émotions qu'on voyait dans le film. Buster Keaton qui est sur le train puis qui est en train de courir pour essayer de pas tomber ou d'attraper quelqu'un ou peu importe. Il y avait une musique tout. Et là, ils ont développé à la longue, c'était des catalogues. Donc, c'était des catalogues de musique écrite. Et là, tu avais des sections pour tel type d'émotion. Ils étaient classés par émotion. Puis là, tu pouvais choisir, selon l'émotion, tu pouvais choisir quelle pièce. Donc là, tu étais pendant. Puis là, tu faisais ça live. Là. Donc, le film tournait et là, tu choisissais l'émotion, tu ouvrais ton livre et là, tu jouais les petits extraits qu'il y avait là, puis tu improvisais un peu là-dessus. Puis c'était donc très particulier.
D'une part, ce que tu viens de décrire, ça ressemble à ce à quoi tu as fait allusion tout à l'heure, la musique en canne.
Oui.
C'est-à-dire que des ambiances qui sont déjà prédéterminées que tu essaies. Et d'autre part, je me suis rappelé du groupe pour lequel j'ai travaillé à un moment donné, qui s'appelait le groupe Intermède. Je ne sais pas si ça existe encore.
Les DVD.
Ils faisaient ça. Oui. Mais eux autres, ils faisaient, oui, effectivement. Donc, c'est un groupe québécois là, qui faisait de la musique dite en canne.
OK. Ah oui, Intermède. Ben oui, mais c'est des éditeurs aussi. Intermède Musique. Oui. OK. Mais donc, pour continuer mon histoire, c'est que après ça, ils ont rendu ça plus complexe. Donc, il y a un instrument, je ne me souviens pas de son nom, ça a un nom. D'ailleurs, ça prenait des virtuoses pour jouer ça, des sortes de virtuoses. Tu avais non seulement un clavier, tu avais même plus qu'un clavier, mais tu avais aussi toutes sortes de trucs pour faire des sons. Mettons un pointe-pointe ou un trrr, ou toutes sortes de trucs. Donc, tu avais des pédales, toutes sortes d'affaires. Fait que là, le multimusicien, c'est comme une espèce d'homme-orchestre, si tu veux. Mais
un bruiteur, il devenait un bruiteur.
Il était bruiteur, mais en même temps, il faisait la musique, puis des fois, il criait, puis des fois, etc. Mais en plus de ça, ce qu'on connaît moins, mais qu'on commence à connaître plus parce qu'il y a eu des gens qui ont écrit là-dessus, dont un professeur à l'UQAM qui s'appelle Germain Lacasse. Il y avait pas à l'UQAM, je ne sais plus, c'est à l'Université de Montréal ou l'UQAM, je ne me souviens plus. Mais Germain Lacasse, il a étudié ce qu'on appelait le bonimenteur, et qui avait tant aux États-Unis que chez nous. Donc, c'était non seulement il y avait de la musique pendant le film, puis donc une espèce de spectacle musical qui accompagnait le film, d'ailleurs qu'on recrée aujourd'hui. On peut aller des fois dans des cinémas, puis il y en a des musiciens qui y vont puis qui refont ça. Là, ils font des espèces de reconstitution de comment ça se passait. Mais le bonimenteur, lui, il commentait le film. Puis, Il n'y avait rien, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Les gens chahutaient, mangeaient, mais pas juste du popcorn comme aujourd'hui. C'était très vivant. Ça riait aux éclats ou ça criait, puis le bonimenteur. Donc, c'était très, très, très sonore. Et pourtant, on appelle ça le film muet parce que le film lui-même, on n'avait pas encore, en tout cas jusqu'en 1927, il n'y avait pas de bande sonore. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on oublie, je trouve, puis qui est une très belle histoire, en fait, puis qui montre à quel point c'est important dès le départ, le son au cinéma puis la musique.
Effectivement. Oui, le chanteur de jazz, 1927.
Oui, The Jazz Singer, qui était un film...
The Jazz Singer.
Oui. Mais en fait, dans ce film-là, oui, il y a du son, mais comme par hasard, puis ça, c'est une autre chose encore que je trouve importante, ce n'était pas les dialogues qui étaient sonorisés, ce n'était que les extraits où il chantait.
Oui, et c'était mitoyen aussi, il y avait des séquences qui étaient synchronisées.
Voilà, et d'autres non.
Oui, voilà.
Oui, c'est ça, parce que ce qui était synchronisé, c'est ça, quand il parlait, ben c'est comme à l'habitude, c'était des intertitres qu'on voyait et qu'on lisait, mais quand il chantait, là, on l'entendait. Et c'est ça que les gens, vraiment, les capotaient à l'époque. Là. C'était quelque chose là, d'entendre du son, puis, puis peu à peu...
Ben, ça me ramène à l'idée que j'ai mentionnée tout à l'heure sur justement la couleur émotionnelle de la musique, que ce soit sur le plan technique. Je me rappelle, le chanteur de jazz, bon, ça se passe dans une communauté juive, ça fait allusion à l'intégration de la communauté juive dans cette Amérique qui se veut terre d'accueil. Et le fameux chanteur de jazz, la musique qu'il préférait était justement le ragtime, au grand désespoir de son père qui faisait pratiquement une crise cardiaque juste à entendre jouer le ragtime à cette époque.
Mais en même temps, en plus, on voit dans le film une pratique qui est, on l'a vu avec le premier ministre l'année passée, là, quand on a vu qu'il s'était... C'était maquillé blackface, là, c'est-à-dire qu'il se maquillait en noir. Mais dans le film, c'est une des dernières fois où on voit ça à l'écran, d'ailleurs, pour faire son spectacle, son fameux spectacle à la fin où il va enfin chanter devant tout le monde. Mais en fait, il va être un blackface, c'est-à-dire qu'il se teint avec genre de la cire à chaussures, vraiment le visage en noir, avec les lèvres plus blanches, il se met un chapeau. Oui. Et il personnifie un Afro-Américain qui va chanter sa chanson pour sa mère et tout. Mais c'est pas fait d'une manière, film-là, en tout cas, c'est pas fait d'une manière irrespectueuse, mais...
Non, mais en fait, juste une petite parenthèse qui est très importante ici, c'est que le ragtime était une musique associée aux Africains-Américains autant... Bon, Scott Joplin, qui était un café crème, là, pour reprendre le langage d'époque... C'était aussi autant scandaleux que l'arrivée du rock'n'roll.
Oui, exactement. Tout à fait. Oui, puis en plus, où on l'entendait au début, c'était dans les... Ils appelaient ça des salons, mais souvent... en tout cas, bref, c'était des lieux peut-être moins gracieux que par exemple, les salons à Paris.
Moins populaire à la prière.
Oui, voilà. Mais donc, ce qui se passe, c'est que ce film-là, il a été très critiqué à cause de ça, à cause du blackface. Voilà. Mais pas à l'époque, mais évidemment aujourd'hui. Mais il y a tout un contexte auquel tu as touché un peu brièvement, c'est celui de l'intégration des Afro-Américains, puis la en tout cas, souvent la collaboration avec la communauté
juive qui soutenait les Africains-Américains parce qu'ils s'identifiaient à eux comme étant eux-mêmes un peuple rejeté, rejeté par l'Europe, martyrisé, je dirais, par les tsars russes à l'époque. Là, puis ils sont arrivés en masse ici, en Amérique du Nord. Donc, cette association-là était extrêmement, avec les faisaient avec les Africains-Américains, progressiste à l'époque et, je dirais, audacieuse.
Oui. Écoute, je te relance sur ta question que tu m'as posée il y a à peu près 10 minutes, puis on a divagué autour de ça. Mais ça...
Tu fais une question.
Tu m'avais posé une question. Ben, en fait, tu me parlais de quelque chose qui te fascinait et c'était l'aspect sémantique créé par la musique. Voilà. Donc,
On y a touché
exactement en disant que avec le ragtime, mais aussi avec les cahiers dont je te parlais, préconstitués, qui sont déjà classés par type d'émotion. Mais il faut aussi aller même avant ça, il faut aller à Wagner pour comprendre la musique de film d'aujourd'hui, aujourd'hui. Wagner, qui a inventé, entre guillemets, ce qu'on appelle le leitmotiv, c'est-à-dire que dans ses opéras, il y avait le thème, un thème pour un personnage, un autre thème pour un autre personnage, souvent associé avec un instrument en plus.
Oui.
Et donc, c'était cette mélodie-là que, puis en même temps, qui représentait, je dirais, l'émotion principale portée par ce personnage-là, soit une émotion héroïque, soit triste, soit joyeuse, soit des fois même carrément, bon, entre bref, toutes sortes de trucs. Et donc, les premiers compositeurs de films, avec orchestre et tout, mais avec le cinéma qui est devenu sonore, là, je pense à Heinrich Kongold, par exemple, se sont beaucoup, beaucoup inspirés. Et tous les autres compositeurs à la suite, qu'on pense à Star Wars, Williams, c'est ce qu'il fait. Ben une technique avec un thème, puis il y a des couleurs, mais ça peut être des accords parfois quand on arrive sur l'étoile noire ou quand on voit les soldats. Il y a toujours le même type d'accord. Puis quand c'est Luke, ben, il y a un autre type, c'est sa petite mélodie. Puis chacun. Puis ça a continué ensuite. Puis même aujourd'hui encore, il y a parfois encore cette technique-là. Hans Zimmer, non, mais peut-être plus John Potter, surtout pour les films d'animation, parce que là, ça se prête un peu plus. Donc, c'est de là que ça vient. Puis c'est vraiment intéressant. Puis Philippe Tagg, en fait, encore lui. Dans sa thèse de doctorat, lui, s'était intéressé à ça, puis s'était intéressé à la filiation de ça, justement, l'espèce de genèse de ce que ça voulait dire, parce que à la langue, la culture, ben, on sent culture, justement, avec des significations, des codes qu'on va créer à force de les utiliser. Puis donc,
voilà, on crée un langage qui finit par être intériorisé, adopté par le grand public.
Exactement, puis c'est ce qui s'est passé, puis il faut reculer loin, tu vois, là, mettons qu'il y a sûrement avant Wagner, mais si on parle de Wagner, donc tournant du 19, ben fin du 19e, puis qu'on continue, comme ça, puis à force de voir des films, des publicités, des émissions de télé, donc on enculture les gens. Puis donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces codes-là sont tellement pris pour acquis qu'on se demande même plus si c'est triste ou pas, on le ressent tellement qu'on l'a appris très rapidement. Puis donc, c'était ça que je voulais dire par rapport à ce qui te fascinait, c'est que c'est un code très complexe. Puis oui, c'est ça, je te parlais de Tagg. Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a analysé, en fait, la scène d'ouverture de Kojak. Tu te souviens de l'émission Kojak dans les années 70?
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai lu un peu son travail, exact. Effectivement.
Et lui, sa grande conclusion, là, je veux dire, c'est très complexe, cette thèse-là, là, mais lui, ce qu'il a remarqué, c'est que le thème de l'émission était joué au trombone, puis c'était justement le type de héros, mais qui n'est pas tout à fait héros, puis qu'on voyait chez Wagner, tu sais, puis... mais c'était plus jazz aussi, avec des accords, ce qu'il appelle l'accord du détective, donc c'était typique, il y a toujours ce genre d'accord-là, là, un peu...
Oui, qui est énigmatique. Là, qui
oui, puis qui a un peu blues aussi, là, souvent avec la quinte abaissée, en tout cas, bref, il y a tous des codes comme ça qui appelaient des musèmes, en fait, des petits extraits musicaux qui peuvent être des accords, des sons, des mélodies, peu importe, mais qui avaient à la langue, qui se sont mis à constituer une sorte de vocabulaire émotif avec la musique, puis qui s'est commencé par se cristalliser là, dans les espèces d'albums écrits dont je te parlais tantôt. Donc, c'est vraiment fascinant de voir cette filiation-là, en fait.
Mais si je me souviens bien, Tagg, sa thèse, c'est les années 70, 80?
79.
79, donc, ouais. Donc, nous, en 79-80, on est déjà familier avec ça, mais tout ce langage-là où le son devient un vecteur identitaire, ça s'est construit avec le temps. Ça a pris, tout le cheminement qu'Hollywood a fait, hein, en passant par Walt Disney dans les années 50-60. C'est un cheminement et dont nous sommes des partenaires dans ce cheminement-là. Donc, même si on ne va pas à l'école pour apprendre le langage sonore, on l'a tellement intériorisé qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est ça qui me fascine dans la sémantique, l'espace sémantique. Ça devient universel de plus en plus parce que la technologie, Internet, cinéma, et avec la force du cinéma hollywoodien, surtout la force de leur système de distribution, fait en sorte que toute la planète finit par réagir au même langage, au même, comment je pourrais dire, truc technique.
Là. Oui, ils vont comprendre le code, alors que si on fait voir des films de Bollywood à quelqu'un qui en a jamais vu, il ne captera pas. Là, ouais. Tout va avoir l'air un peu joyeux, sinon même absurde. Là,
ouais. Mais Bollywood, lui aussi, s'ajuste, hein, en fait.
Oui, c'est vrai.
J'ai pu rencontrer des compositeurs de Bollywood quand je suis allé à Mumbai, et puis ils sont en train de faire le virage. Les films modernes de Bollywood ressemblent drôlement aux films américains, autant sur la trame sonore et qu'à tous les niveaux.
Oui, non, ça, c'est vraiment fascinant, cette chose-là. D'ailleurs, je veux parler d'un autre truc, c'est que là, on parle des codes musicaux, mais il faut bien comprendre que dans l'image, c'est pareil. Puis ça, on s'en rend compte encore moins, je trouve. C'est encore plus... comment je dirais ça, donc?
Sournois.
Oui, mais ça être négatif. Par exemple, l'éclairage. Ouais. Quand c'est bleu, quand c'est rouge, quand c'est jaune, quand vous voyez là, un éclairage bleu, ben, ça nous met dans une ambiance. Il y a quelque chose qui se passe aussi dans le sentiment. Quand on est dans une ambiance plus jaune, d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Trafic, où il y a des scènes, toutes les scènes qui se passent avec la mafia, puis du côté plus sud, ben, en fait, du côté du Mexique et tout ça, on est dans le jaune saturé. Puis quand on est en ville, on est dans le bleu, quand on est à New York. Puis les deux vont se rencontrer à un moment donné parce que, bon, la fille du personnage principal, qui est un riche américain, va se retrouver dans une histoire de drogue, etc. Donc, c'est aussi important que la musique, mais tout ça, en fait, encore une fois, converge, concorde, dialogue ensemble. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a les angles de caméra. Ensuite, il y a les gros plans, les pas gros plans. Puis ça aussi, c'est des codes qu'on a très rapidement assimilés. Par exemple, un code qui n'a pas de sens, là, quand on y pense deux minutes, là, c'est quand on voit quelqu'un qui parle, deux personnes qui se parlent, OK? Puis qu'on voit on voit à l'écran une personne d'un côté, puis ensuite, paf, on voit de l'autre côté l'autre personne qui parle. Mais c'est pas représentatif de ce qui se passe dans la vie, sauf si, mettons, on les met, on fait un plan d'ensemble et on voit les deux qui sont en train de parler. Mais s'ils sont face à la caméra, les deux, et qu'ils parlent en même temps, ou un après l'autre, c'est très étrange. Mais c'est un code qu'on a adopté à la langue. Puis il y a plein de codes comme ça de montage, très complexes. Des codes, par exemple, un code qui est un fondu enchaîné. Le fondu enchaîné, souvent, il va exprimer le passage du temps ou il va exprimer un changement de lieu. Donc, tu vois, il y a plein de codes aussi comme ça, puis ils sont très nombreux. Il y a le premier qui a commencé
Changement d'épisode ou changement d'espace d'action, effectivement.
Puis donc, la musique embarque là-dedans aussi. Puis des fois, la musique fait le lien entre les deux. Tu sais, des fois, le lien entre 20 ans qui ont passé, puis là, la musique vient aider le fondu enchaîné ou l'autre type de technique visuelle qui est utilisée. Donc, cette technique-là se mélange à la technique sonore puis à la technique musicale pour faire comprendre l'histoire aux gens. Puis là, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce que tu notes, là, c'est que tout ça, c'est comme une symphonie, mais c'est vraiment ça, c'est quelque chose de tout à fait intégré. Puis ce qui est admirable, c'est quand on réussit à tout faire coordonner ça ensemble pour raconter l'histoire, puis pour surtout en faire passer l'émotion.
C'est une tradition... On pourrait qualifier là d'une tradition orale dans le sens que il n'y a pas personne qui, lorsqu'il écoute un film, qui a étudié ces trucs-là qu'on fait mention. Nous, on est un peu plus avertis, en guillemets, là-dessus, parce qu'on étudie la chose, on l'analyse, on l'observe, on prend du recul, etc., on en parle. Mais l'auditeur, normal, je dirais, lui n'a pas appris ces choses-là, mais il comprend tout le langage. C'est comme s'il l'avait appris d'une façon orale. C'est pour ça que j'utilise la métaphore, j'utilise le truc ici, l'idée. Il a intériorisé, comme on parle à un enfant qui a 5 ans, qui n'a pas appris à écrire, il est capable de parler et qu'il a compris l'essentiel pour pouvoir communiquer les éléments importants pour lui. Ouais. Donc, il y a un peu quelque chose de similaire qui se passe dans ce langage invisible qu'on apprend, que je mets dans la catégorie tradition orale.
Oui, mais c'est intéressant parce que, en fait, ça va toucher à un dernier élément dont j'aimerais parler, en fait, mais qui est un peu détaché, mais qui revient au même, c'est l'idée de langage universel. Souvent, on dit que la musique est une langue universelle, un langage universel, alors que dans ce cas-ci, ce qu'on voit bien, c'est que oui, on le sait, mais on ne le sait pas en naissant. C'est en étant, on est enculturé, encore une fois, on devient héritier de ces significations-là que vont porter la musique ou les images et tout. Puis, comme tu dis aussi, pourquoi ça s'universalise en ce moment? C'est parce que l'industrie hollywoodienne est tellement forte que ces codes-là sont non seulement diffusés partout dans le monde, de plus en plus de manière vaste, mais en plus, ils sont adoptés par des réalisateurs d'autres cultures qui font que, oui, ça va devenir universel, mais dans un sens très particulier, dans un sens presque, je dirais, d'invasion, tu sais, mais c'est pas mal, mais je veux dire, c'est certainement pas universel parce que ça vient comme ça en naissant. Il y a rien de ça qui est physique dans un certain sens, là, ou physiologique. C'est tout à fait culturel.
Puis la culture, elle est apprise.
Exactement.
Comme la langue.
Donc, c'est un long cheminement. Oui, ils savent quand on va au cinéma, mais ça commence quand on regarde entendre parler ses parents, quand on voit à la télé des choses informes qu'on comprend pas, puis qu'à la longue, on vient comprendre, puis qui sont simples, comme par exemple des dessins animés. Mais les codes sont déjà là. La musique, c'est hyper exagéré. On appelle ça d'ailleurs du Mickey Mousing. Tout est exagéré, mais là, tu apprends déjà là. Oui, c'est ça, on apprend déjà les codes, les principaux simples, et plus on avance, plus on se perfectionne dans notre connaissance. Puis tout, comme la langue, en fait, c'est pareil. On parle français, on est capable de parler la langue avant de l'écrire, avant de la comprendre comment elle fonctionne, comment la grammaire fonctionne. On est capable de s'exprimer sans connaître la grammaire, mais c'est pareil. On vient qu'on l'apprend, la langue, évidemment, mais je veux dire, des jeunes, un enfant jusqu'à l'âge avant d'aller à l'école, à 5 ans, il parle très bien. Il fait les phrases relativement bien structurées, alors qu'il a appris seulement par répétition, par imitation, et non pas par un apprentissage qui serait formel, qui va venir plus tard. Ben, c'est la même chose avec les films, sauf qu'on n'a jamais eu, en tout cas la plupart des gens n'ont jamais eu de formation formelle, d'entraînement formel par rapport à ça. Ils l'apprennent. Puis, c'est pour ça que j'aime pas le mot langage universel, parce que ça suggère que c'est quelque chose qui est inné, alors que
Exactement.
C'est tellement loin Exactement. D'être le cas.
Exactement. J'ai envie de revenir avec une petite anecdote historique à propos du Mickey Mousing, dont tu viens de faire allusion. Je ne sais pas si tu sais d'où ça vient, là, parmi les premiers qui ont utilisé cet élément-là, avec une perspective un peu péjorative, on va dire. En fait, c'est que vers la fin des années 50, il y a le mouvement du jazz se développe davantage sur la côte ouest. Donc, dans les studios d'Hollywood, à ce moment-là, qui avait déjà une emprise, on peut dire, sur l'ensemble, sur la planète par rapport à la production, la diffusion, les codes, tout ça. Donc, beaucoup de musiciens se retrouvent à Hollywood pour gagner leur pain, leur croûte. Pas évident, lorsque t'es jazzman, de gagner ta vie en musique, ça l'a jamais été. Ceux qui ont réussi à s'en sortir au tout début, tout au long, parce que la musique de film, faut que tu sois un petit peu plus préparé. Donc, c'est les musiciens qui pouvaient lire la musique. Et les Africains-Américains avaient un recul par rapport à l'accès à l'éducation. On connaît l'histoire. Et à cause de cela, il y a eu un mouvement plus, je dirais, hollywoodien du jazz, une musique orchestrée, une musique semi-savante, une musique qui était fonctionnelle par rapport au film. Le jazz s'était mélangé à ça. Et c'est là que j'en reviens avec le Mickey Mousing, les Africains-Américains qui se sentaient rejetés par rapport à ce mouvement-là au tout début, ils ont appelé ça de la musique de Mickey Mouse.
OK. Donc, tu penses peut-être à White Man puis ces gens-là, peut-être?
White Man, c'est avant, c'est les années 20.
OK, c'est avant, OK.
Oui, c'est avant ça, mais je fais allusion, par exemple, au jazz cool, qui était d'ailleurs peut-être l'architecte, c'est un Canadien, un des premiers grands architectes, là, qui était Gil Evans, c'est non pas Bill, mais Gil Evans, qui est un arrangeur et puis qui était canadien, je pense qu'il était à Toronto, déménagé aux États-Unis. Et puis, c'est lui qui avait fait, si on peut dire, les arrangements qui étaient un petit peu au cœur du fameux Birth of the Cool avec Miles Davis.
OK. Est-ce que tu rentrais, parce que dans l'Ouest aussi, il y avait toute la gang de Lenny Tristano, puis... cette bande-là, là, des Boubecs.
Oui, on les appelait eux autres le Third Stream parce qu'ils étaient plus dans une démarche, je dirais, de recherche. Mais il y a quelque chose aussi d'Hollywood là-dedans qui a un clin d'œil. Je ne sais pas si tu as vu cette séquence-là, mais c'est vraiment drôle. C'est le fameux Take Five de. Non, c'est pas Take Five, c'est Blue Rondeau à la Turque.
Oui, OK.
Blue Rondeau à la Turque, de, justement, ça te fait allusion à Dave Brubeck. Il y a Hollywood, en fait, un genre de clip là-dessus à l'époque. Où tu vois, avec un effet spécial, Dave Brubeck sur un tapis de Turquie qui survole la Californie. Pas mal drôle. Surtout que, bon, les effets spéciaux des années 50 n'étaient pas aussi développés, donc ça fait vraiment drôle. Ça fait...
OK. Bon, mais sur cette belle note rigolote, je vais essayer de trouver ça. D'ailleurs, si je te trouve, je mets le lien.
Je pense que je l'ai, je te l'enverrai.
Mais c'est un sujet fascinant, encore une fois. En tout cas, on va peut-être y revenir parce qu'il y a non seulement la musique de film, il y a la musique de jeux vidéo, puis il y a plein d'autres trucs dont on pourrait parler. Mais on verra, c'est ça, on verra à l'avenir quel sujet. D'ailleurs, on invite encore les auditeurs, s'ils veulent bien, nous proposer des sujets sur notre page Facebook qui est ça s'appelle, attends un petit peu, ça s'appelle Balado Parlons Musique. Le nom, en fait, tout en un mot, non, si vous cherchez. Oui, c'est ça. Donc, Balado, B-A-L-A-D-O, Parlons Musique.
Ah oui, le nom du site Internet de la page.
Ben, en fait, de la page Facebook, alors que notre site Internet, c'est juste www.parlonsmusique.ca.
.ca, d'accord.
Ben, voilà. OK, ben écoute, merci beaucoup encore, Gérald. Puis j'ai hâte qu'on se reparle la semaine prochaine.
C'est notre avant-dernière, je le rappelle, pour la première saison qui va se terminer avec la 13e émission la semaine prochaine. On ne connaît pas le titre. Ce matin, on n'avait aucune idée de où est-ce qu'on s'en allait, donc on est des noms préparés.
En fait, c'est ça, c'est un défi qu'on se lance en même temps que c'est un défi, je dirais, heureux et joyeux, parce que c'est pour essayer d'être le plus près possible des échanges qu'on a dans la vie de tous les jours, toi et moi, quand on discute de musique.
Exactement.
OK, ben merci beaucoup, Gérald.
À bientôt.